Regard croisé sur l'actualité. Ousmane Kanté.
Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Radio de la Paix pour ce nouveau numéro de Regard croisé sur l'actualité, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Le tout premier d'ailleurs dans les nouveaux locaux de Radio de la Paix. Car la semaine dernière, nous enregistrions un numéro spécial depuis nos studios de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Et bien donc, pour cette semaine d'actualité, nous avons retenu pour vous la question de la réconciliation et de la cohésion sociale avec la récente validation de la stratégie nationale. Nous évoquerons aussi les alliances électorales supposées ou possibles à l'approche des élections locales et de la présidentielle. Nos invités s'exprimeront par ailleurs sur la problématique de l'investissement et du développement en Afrique avec le forum éponyme qui vient de se tenir à Abidjan. Ils se prononceront également sur la prime ado, dont un éventuel précompte de 3,33% au bénéfice des syndicats divise les fonctionnaires. Et enfin, ils diront un mot sur l'affaire dite du faux général arrêté et qui fait couler actuellement beaucoup d'encre et de salive, non sans commenter par ailleurs la vaste opération de recrutement de volontaires au Burkina Faso pour faire face au terrorisme. Pour donc croquer toute cette actualité, nous recevons Antoine Assalé-Thiemoko, journaliste et député maire de Tiassalé, et à ses côtés, Paul Arnaud Bowie, vice-président exécutif du PPACI, chargé de l'entrepreneuriat, du transport et du secteur privé. Messieurs, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. La Côte d'Ivoire vient de se doter d'une nouvelle stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale à l'initiative du ministre Kwadio Konan Bertin dit Kakabé. C'était lors d'un atelier à Grand-Bassam où des partenaires techniques et la société civile ont pris part aux travaux. Occasion saisie par la représentante résidente du PNUD, Carole Flore Smerezniak, pour exprimer ses attentes des prochaines élections en Côte d'Ivoire. Je vous propose de l'écouter.
L'adoption de cette stratégie par le gouvernement, son opérationnalisation, la mobilisation des ressources nécessaires pour sa mise en œuvre et l'adoption d'un plan de suivi et d'évaluation réaliste constituent les prochaines étapes essentielles qui doivent nous mobiliser juste après le présent atelier. Par ailleurs, nous savons tous que la Côte d'Ivoire se prépare à des échéances électorales cruciales en 2023 et en 2025 respectivement pour consolider ses acquis démocratiques. Mais aussi, nous espérons, nous souhaitons, nous prions pour tourner définitivement la page des processus électoraux qui engendrent les conflits. Dans cette perspective, la mise en œuvre de la stratégie avant ces échéances démocratiques serait très utile. Le Programme des Nations Unies pour le Développement se tient disponible à accompagner l'ensemble du gouvernement pour appuyer les initiatives qui contribuent à renforcer la stabilité sociale de la Côte d'Ivoire.
Alors, messieurs, tout d'abord, que pensez-vous de cette nouvelle stratégie dont le ministre Kwadio Konan Bertin dit qu'elle est un signal fort envoyé aux Ivoiriens en demande d'égalité de chance, d'accès aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social, à la justice, à l'information, à l'éducation et à la santé? Paul Arnaud Bowie.
Merci. Je voudrais, avant tout propos, vous dire merci pour me donner l'occasion d'apporter un message fort de notre parti, le PPACI, à l'occasion donc de cette rencontre, qui me demande de vous traduire en tout cas à vous et à votre organe toutes ces salutations. Depuis 1990, on va dire, la Côte d'Ivoire traverse une période assez turbulente de son histoire politique, son histoire sociale. Et cette turbulence va connaître donc son apogée, j'allais dire, en 2010, au sorti donc des élections présidentielles. Et cette élection-là s'est terminée dans une violence inouïe parce que les organes qui avaient en charge donc l'organisation de ces élections n'ont pas été équitables. Et au terme de tout cela, il y a eu une forte déchirure dans ce pays. Les Ivoiriens se sont opposés et nous avons connu donc plusieurs morts. Cela par la suite, a connu donc l'arrestation de plusieurs opposants, même du président Laurent Gbagbo, qui était notre candidat, qui a été déféré à la CPI. Après un long procès, le président Gbagbo donc, s'est vu libéré, donc déchargé donc, de toutes les accusations, et il est rentré en Côte d'Ivoire. Ici, ce que nous voulons dire, c'est que, au-delà donc, des autres conflits que nous connaissons, qui quelquefois sont des conflits liés à des problèmes fonciers dans le nord, dans l'ouest du pays, même au sud, la question politique reste essentielle dans les conflits en Côte d'Ivoire. Et généralement, ce sont les organes et les institutions en charge donc, de ces élections qui causent véritablement le problème. Et nous, acteurs politiques du PPACI, nous estimons que pour ne plus revivre donc, ce genre de situation, il serait bon d'appeler à ce que les institutions en charge donc, de ces élections-là soient des institutions transparentes, équitables. Et c'est pour ça que nous appelons donc à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions nécessaires pour que la CEI connaisse donc une réforme en profondeur, pour que le Conseil constitutionnel connaisse une réforme en profondeur et que le jeu démocratique soit un jeu apaisé à partir des structures qui organisent ces élections-là. Mais quand nous assistons à des manœuvres qui consistent à éliminer des candidats, à des malices pour faire gagner un parti politique, alors que nous ne sommes pas encore dans la compétition, voyez-vous, la question donc, de la cohésion sociale, la question donc, de la réconciliation se trouve être, n'est-ce pas, menacée. Ce n'est donc pas les forums, ce n'est donc pas les ateliers, ce n'est donc pas les déclarations de membres du gouvernement qui vont amener à la réconciliation, voire même les déclarations des organisations internationales. Il faut plutôt que les acteurs politiques ivoiriens s'asseyent autour d'une table, comme ils l'ont fait dans le cadre du dialogue politique, et que les résolutions qui en sortent soient intégralement appliquées, et que, bien entendu, au terme de tout cela, la Côte d'Ivoire puisse connaître des lendemains meilleurs avant et après les élections, que ce soit locales ou présidentielles.
Si je vous comprends bien, c'est une affaire en politique, les questions de réconciliation et de cohésion.
Bien entendu.
Alors, je pense que notre ami du PPACI a fait un peu le tour des questions, j'allais dire, de fond qui ont déchiré la Côte d'Ivoire. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce sont des tentatives de solutions, de trouver des solutions pour régler définitivement la question de la réconciliation, pour que la Côte d'Ivoire se projette dans l'avenir. Et donc, il peut s'agir d'une dialectique qui peut opposer deux camps. Les acteurs politiques eux-mêmes qui doivent trouver les solutions pour que leur crise de confiance soit résolvée. Et puis, il y a les acteurs sociaux, je parle du peuple, qui n'a pas forcément les mêmes revendications que les acteurs politiques. Les questions électorales, les questions d'organisation des élections, les questions de fonctionnement de la CEI, du Conseil constitutionnel, ça, ce sont des questions qui intéressent les acteurs politiques au premier point. À côté de ça, il y a des acteurs qui ne sont pas politiques, mais qui ont des enjeux qu'ils veulent relever et qui sont au quotidien leurs problèmes. Je pense que l'atelier dont on parle ici, qui a été organisé sur la stratégie nationale de réconciliation, avait surtout pour objet d'identifier les questions qui, pour les populations, sont les plus essentielles dans le cadre du processus de réconciliation. Donc, je peux dire qu'il y a deux volets dans cette réconciliation. Le volet politique, en tant que tel, avec les acteurs politiques qui recherchent des solutions, et puis le volet qui concerne la vie au quotidien des populations. Là, on parle d'égalité des chances, il faut le dire. En Côte d'Ivoire, il y a un vrai sentiment d'injustice ici. Quand on parle d'égalité des chances, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne croient même plus au système. Des enfants vont à l'école, ils ont des diplômes, ils sont convaincus que ce n'est pas leur valeur intrinsèque qu'on recherche dans les concours qu'on passe et qu'il y a des systèmes parallèles qui sont mis en place pour que des gens, parce qu'ils appartiennent à un parti politique, parce qu'ils ont des relations, ils puissent réussir à côté de ceux qui ont des vraies valeurs, qui ont le mérite et qui ne réussissent pas. Donc c'est une question qu'il faut qu'on cherche à trancher. Les questions d'accès à l'éducation sont aussi des questions importantes. Il y a des zones entières de la Côte d'Ivoire où les enfants n'ont même pas du bâtiment où aller à l'école. Ils sont assis à même le sol. Alors qu'on a fait de l'éducation quelque chose d'obligatoire. Les enfants doivent aller à l'école. Tout ça, c'est des questions qu'il faut traiter. Donc je pense que ce genre d'atelier peut permettre d'identifier ces problèmes-là et de trouver des solutions. Il doit, donc, je suis d'accord avec le frère du PPACI qui pose des problèmes politiques profonds qui doivent être résolus, effectivement. Mais à côté de ça, il y a la vie au quotidien des Ivoiriens qui ne sont pas forcément liés aux revendications des politiques et qui doivent être pris aussi en compte.
Tout à fait. Alors, Paul Arnaud Bobby, vous avez entendu dans l'extrait sonore les attentes empreinte d'inquiétude de la représentante du PNUD en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que la cohésion et la réconciliation sont chaque fois menacées lorsqu'on approche des élections? Est-ce que vous avez une explication à cela?
En ce qui concerne la question de la cohésion sociale, la réconciliation, parce que bien entendu, Il faut que les richesses du pays, n'est-ce pas, soient équitablement réparties entre les fils de Côte d'Ivoire, au regard donc du mérite des uns et des autres. Et de ce point de vue-là, nous sommes tout à fait d'accord que autant nous devons aborder les questions liées à la politique, mais également les questions liées au quotidien, au social, donc des Ivoiriens. Mmh. Et cela, le PPACI l'intègre bien, n'est-ce pas, dans son programme. Je voulais être clair là-dessus. Mais,
sur les inquiétudes.
Mais bien sûr, là, elle me rejoint. Elle me rejoint quand je dis que c'est essentiellement, n'est-ce pas, parce que ici, en Afrique, en général, ou en Côte d'Ivoire, quand on parle de cohésion sociale, c'est l'embrasement des rues, l'embrasement des villes, la déchirure verbale, etc., etc. Et à ce niveau-là, elle me rejoint parce que elle est en train de dire qu'elle exprime, n'est-ce pas, des inquiétudes à l'approche des élections. Mais pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude, cela suppose que les institutions en charge donc, de ces élections-là sont des institutions crédibles, des institutions qui prennent en compte, n'est-ce pas, les aspirations de toutes les parties en présence. Vous comprenez ? Il doit y avoir des élections. C'est un jeu. Et ce jeu-là doit se faire selon, n'est-ce pas, un art. Et cet art-là, c'est l'art de l'équité, de la transparence, etc., etc. Donc que tous les acteurs s'asseyent et qu'ils définissent, n'est-ce pas, les conditions du jeu. Et puis on y va. De sorte à ce que celui qui gagne à la fin soit véritablement crédible et ne soit pas contesté.
Alors, un observateur de la scène politique ivoirienne reprochait dernièrement à Laurent Gbagbo d'avoir raté le coche de rendre un peu toutes ces institutions crédibles, transparentes, indépendantes, parce qu'aujourd'hui, la CEI, le Conseil constitutionnel, fonctionne pratiquement de la même façon que sous le magistère de Laurent Gbagbo, non ?
Vous savez,
le fait qu'un président de la République qui est candidat sortant nomme le président du Conseil constitutionnel, ce sont des choses dont on aurait pu gérer de façon plus transparente, plus autonome, plus indépendante, non ?
Un des secteurs dans lequel le président Laurent Gbagbo a beaucoup travaillé, c'est beaucoup plus dans la réforme des institutions. Bien entendu, il y a eu également de grandes réformes au niveau de la CEI, où on a connu l'élection à 18 ans, où nous avons connu les urnes transparentes, où autour de la question donc de la CEI, tous les nommés, pour assurer la présidence de la CEI, n'était pas du parti du président Laurent Gbagbo, il y avait toute une démarche pour rendre donc cette CEI-là transparente. Mais vous savez, il y a eu la guerre, et après, la CEI a fini par fonctionner selon le bon vouloir des politiques. C'était autour des tables de négociation, on va dire à Marcoussi, on va dire à l'accord politique de Ouagadougou. C'est tout ça, n'est-ce pas, qui a contribué à la mise en place de cette CEI que nous connaissons aujourd'hui. Donc, à la limite, cette CEI-là n'était pas véritablement de l'aspiration politique, n'est-ce pas, de Laurent Gbagbo.
Et le cas du Conseil constitutionnel.
C'était un arrangement politique.
Et le cas du Conseil constitutionnel.
Mais tout cela va ensemble, bien sûr. C'était un arrangement. Et au thème de cet arrangement-là, chaque partie prenante a donné, n'est-ce pas, sa vision, sa façon de voir. Et pour la paix, le président Gbagbo a cédé donc à beaucoup de choses, notamment à ce que nous savons aujourd'hui que nous sommes en train de critiquer.
Mmh. Alors, ce que je veux dire, c'est que les acteurs politiques ivoiriens ont ceci d'extraordinaire, qu'ils déplorent toujours les conséquences des causes qu'ils chérissent eux-mêmes. C'est-à-dire que vous voulez un pays qui a des institutions qui fonctionnent, qui sont crédibles, qui sont, j'allais dire, un peu autonomes des acteurs politiques, et vous nommez à la tête de ces institutions-là des militants de vos partis politiques. De ce point de vue, déjà, il n'y a aucune crédibilité. Je me souviens bien de cette phrase du président Gbagbo Laurent, lorsque, à l'époque, l'opposition lui avait reproché d'avoir nommé Yao Ndrai, qui est membre de son parti politique, qui est un militant du FPI. Il a dit ceci exactement, je l'ai nommé parce que c'est mon ami. Vous nommez votre ami à la tête d'une institution qui est chargée de crédibiliser un processus électoral et vous attendez qu'il prenne des décisions qui soient indépendantes. Donc, à la base déjà, les acteurs politiques ivoiriens n'ont aucune volonté, n'ont aucune envie de créer des institutions qui soient autonomes de ceux qui les nomment. Mm-hmm. Et donc, quand on passe cette base-là, on ne peut pas être étonné qu'après, on ait des crises. Parce que personne ne cherche vraiment, une fois qu'il est au pouvoir, à mettre des institutions en place avec des acteurs qui ne leur doivent rien. Quand on met en place un système dans lequel ceux qui décident sont des gens qu'on a nommés, qui ne sont redevables, à tous les coups, leurs décisions sont empreintes de subjectivité. Mmh. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui on prenne conscience, parce que la conséquence qu'on a connue depuis 90, c'est que les calculs politiciens, la volonté de conserver le pouvoir en utilisant l'artifice, en utilisant la ruse, a conduit le pays progressivement dans le mur. Mmh. Et aujourd'hui, le constat est sous nos yeux. Alors, la réconciliation par rapport à l'atelier qui vient d'être menée doit avoir, j'allais dire, une essence d'aller vers des élections en 2023 qui soient plus crédibles et qui n'entraînent pas de la violence. Mais quand on voit les décisions qui sont prises, quand on voit les manigances qui sont faites par les acteurs politiques dans tout leur ensemble, aujourd'hui on se rend compte que finalement, personne ne veut d'une élection qui est parfaitement crédible, où les élus sont reconnus par les électeurs comme ceux qu'ils ont vraiment désignés, mais chacun veut tirer à côté de lui le drap, et donc il ne met pas en place les institutions qui permettent de prendre des décisions crédibles. Donc par conséquent, il faut que tous les acteurs reconnaissent que quelque part, ils ont tous fauté, qu'ils ont tous échoué, et qu'ayant fait le constat de cet échec-là, on doit décider que désormais, on ne commettra plus les mêmes erreurs. Et par conséquent, les accusations des uns et des autres contre les autres ne nous avancent à rien du tout. Le constat est là. La Côte d'Ivoire, à chaque élection, tombe dans la violence. Même quand les acteurs principaux ne sont pas tous dans la course, on est toujours dans la violence parce que ceux qui sont en dehors du processus n'ont pas confiance en ce qui se passe. Donc, je pense que c'est une question de volonté politique et de mettre à la place de ceux qui disent institutions des gens qui n'ont aucun lien en termes de participation politique avec ceux qui les nomment. Tant que ce n'est pas ainsi, on va tourner en rond, on va mettre une CEI avec des acteurs qui doivent des choses aux uns aux autres, on ne s'en sortira pas. Voilà ce que moi, je pense. Que...
On a du mal, en tout cas, à appliquer le devoir d'ingratitude, comme le disait le professeur Ouraga au bout. Restons toujours dans le cadre des prochaines élections avec les probables ou supposées alliances qui se dessinent. Celle entre le PDCI et le PPACI a été testée lors des dernières élections législatives. Et on a vu un embryon d'alliance entre le RHDP et le FPI lors des dernières élections partielles. Et justement, concernant un éventuel attelage entre le parti d'Alassane Ouattara et celui de Pascal Afingessan, je vous propose d'écouter Kwaku Kra. Il est le vice-président du FPI chargé des questions électorales.
Le Front populaire ivoirien est un parti comme tout autre parti, et pour aller aux échéances à venir, le Front populaire ivoirien se doit donc de construire des alliances avec des formations politiques pouvant lui permettre de remporter les élections. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Notre congrès du 13 novembre 2021 a affirmé le principe, et à notre réunion du comité central, ce principe a été réaffirmé. Et si vous avez souvenance, le congrès de 2021, il y a eu la participation du secrétaire exécutif d'alors. Et nous sommes dans une dynamique. Je pense que avec le RHDP, il n'y a pas de souci à se faire. Mais pour le moment, il n'y a pas de conclusion en la matière pour dire bon que le Front populaire ivoirien est en alliance avec le RHDP.
Le FPI reste ouvert quand même à beaucoup de partis politiques par rapport aux prochaines élections locales. Mais avec le RHDP, beaucoup s'interrogent, beaucoup voient un peu l'enjeu politique.
Oui, mais justement, l'enjeu, c'est de gagner des élections. Et donc, tout est possible. Et nous l'avons affirmé. Dès lors où cela a été affirmé, je pense que c'est la mise en œuvre. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de rester à l'écoute du président du parti. Et les jours à venir, le président du parti pourrait vous donner des informations certainement plus avancées.
Assalé Timoko, alors, à entendre Kwaku Kra, le vice-président du FPI chargé des questions électorales, les alliances électorales semblent transcender les idéaux politiques. Des partis de gauche qui se marient sans sourciller à des partis de droite, c'est à croire que la fin justifie les moyens.
Oui, parfaitement. En Côte d'Ivoire, la fin, dans le domaine politique, la fin justifie parfaitement les moyens. Ce à quoi on assiste, c'est que les alliances qu'on a connues dans ce pays depuis les années 90 jusqu'à maintenant n'ont aucune base idéologique. Ce sont des calculs politiciens pour permettre de dégager celui qui est là. Après, on se divise pour continuer à faire d'autres alliances. Donc, c'est le même constat. Si aujourd'hui, vous voyez le PDCI, un parti de droite, se rapprocher du PPACI, qui est un parti de gauche, quand vous voyez Afingessan, qui tente de se rapprocher du RHDP, qui est un groupement de partis, j'allais dire de droite, vous voyez que à la base, c'est pas l'idéologie, c'est des calculs. Comment faire pour gagner une élection? Après, même pour des projets de gouvernance, il n'y a aucune vision, il n'y a aucune visibilité dessus. Et donc, c'est le constat qu'on fait. C'est ce qui nourrit la politique en Côte d'Ivoire. Les alliances, les désalliances, les pirouettes et tout ça, on avance dans ça. Et finalement, le peuple lui-même ne se retrouve plus.
Paul Arnaud Bowin, vous êtes du PPACI, vous êtes dans un attelage avec le PDCI. Bon, expliquez-nous comment vous qui avez une idéologie de parti de gauche, de parti socialiste, comment est-ce que vous pouvez vous entendre avec le PDCI?
Ben, nous sommes des Ivoiriens et nous sommes des Ivoiriens au PPACI, nous sommes des Ivoiriens au PDCI-RDA. Et ce qui est important ici, c'est ce que vit la Côte d'Ivoire. Quel est l'état économique, l'état politique, l'état social de notre pays? À partir de ce moment-là, je pense que les questions idéologiques doivent être reléguées au second plan pour aller, n'est-ce pas, au chevet de la main malade. La Côte d'Ivoire est malade, elle a donc besoin de ses fils et de ses filles. À l'effet donc de la sortie, n'est-ce pas, de cette léthargie, de cette maladie grave. Et pour ce faire, nous n'avons aucune gêne, bien entendu, à appeler nos frères du PDCIRDA pour qu'ensemble nous puissions donc trouver des solutions pour guérir notre pays, n'est-ce pas, des différents maux qu'il connaît en ce moment, le chômage, l'insécurité avec l'avènement des microbes, des djihadistes, avec tout ce que nous connaissons comme difficultés. Mais ce que je veux souligner, c'est que, écoutez, de plus en plus les questions idéologiques commencent par faire partie de l'histoire. Parce que les enjeux économiques, commerciaux que nous connaissons aujourd'hui ont fini par rapprocher donc, les peuples, ont fini par rapprocher aussi la volonté, n'est-ce pas, des acteurs politiques à amener, n'est-ce pas, les populations au bonheur. Et bien entendu, tout cela mis ensemble aujourd'hui, la question de l'idéologie, ça se retrouve sur le marché des affaires, sur le marché de la transaction, etc. etc.
Est-ce que ce sont des alliances qui peuvent prospérer au-delà des élections locales de 2023? Je veux dire, est-ce que pour la présidentielle, par exemple, vous pouvez vous entendre sur un seul candidat, PDCI et PPACI?
Écoutez, tant que la Côte d'Ivoire demeure donc l'enjeu, tant que la Côte d'Ivoire demeure la matrice essentielle sur laquelle il faut travailler pour le bonheur des Ivoiriens, les alliances peuvent toujours continuer d'exister entre les différents partis, mais notamment entre le PDCI et le PPACI. Maintenant, quitte à avoir un candidat unique, cela relève donc des instances de nos différents partis. Et le moment venu, ça fera l'objet de débat, mais pas maintenant.
Oui, mais la question du candidat unique est une problématique que les partis politiques ivoiriens ne peuvent pas trancher parce que, comme vous le savez, il n'y a aucune base idéologique dans ce qu'ils font. On a vu ce qui s'est passé en 2020 au présidentiel, lorsque, de façon extraordinaire, il y a dit plusieurs partis politiques se sont retrouvés opposés au RHDP. On avait pensé que, pour l'intérêt de la nation, ils auraient pu s'entendre pour choisir un candidat. Vous avez vu qu'ils n'ont pas été capables de trouver un candidat pour aller affronter le RHDP. Alors que c'est une opportunité de montrer aux Ivoiriens qu'ils pouvaient s'entendre sur l'essentiel qui est la Côte d'Ivoire. Mais leurs divergences d'opinion, les catules, les agendas cachés ont fait que tout ça a capoté et le RHDP est allé en roue libre. Moi, je pense que dire qu'aujourd'hui, l'idéologie n'a pas sa place dans la stratégie politique, c'est une chose un peu dangereuse. On ne peut pas construire quelque chose de solide s'il n'y a pas une base idéologique. Si c'est pour des catules politiciens qu'on veut faire des alliances, ça ne peut pas aller loin. On a vu le FPI et le RDS s'associer dans les années 90, dans le Front Républicain, pour aller contre le PDCI, qui était un parti de droite. Cet attelage-là n'a pas prospéré après que le PDCI ait perdu le pouvoir. On a vu les enjeux, ils se sont retrouvés dans des catules différents. Après, on a vu le PDCI et le RDS s'associer pour former le RHDP, pour aller contre le président Gbagbo Ouédraogo. On a vu la conséquence aujourd'hui, ils sont divisés. Et aujourd'hui, pour le même système, on se retrouve avec le PDCI et le PPACI qui vont maintenant contre le système. Il n'est pas possible qu'un tel attelage, au cours d'une élection, ne débouche pas sur la violence. C'est pas possible. Parce que derrière, comme il n'y a pas d'idéologie, ce sont des petits calculs qui sont liés à des individus, qui viennent régler des comptes les uns aux autres. Et donc, ce n'est pas le pays qui est l'enjeu réel. Parce qu'on veut régler des comptes, on forme des alliances circonstancielles. Et une fois qu'on a conquis le pouvoir, on se divise et on retombe dans la crise encore. Je pense que c'est cette façon de faire la politique qu'il faut étouffer maintenant et montrer aux Ivoiriens que la politique est faite de valeurs. Quand je vois des gens au RHDP, qui, pour une question de candidature, ont quitté le parti et sont allés cracher dans la soupe publiquement. Et aujourd'hui, ils reviennent au RHDP pour avaler les crachats, comme déjà comme Mabri Touakouis, comme Amotano, qui ont dit des choses extraordinaires en 2020. Et qui aujourd'hui reviennent pour dire, quand ils reviennent à la maison, quel est le message qu'on envoie aux jeunes générations? Que la politique, ça sert juste à dégager des intérêts. Quand ils ne sont pas là, à un moment, on fuit. Quand les intérêts reviennent, on revient à la même place. Ça, ce n'est pas comme ça qu'on construit une nation. Je pense que cette façon de faire la politique, là, il faut la changer complètement et construire des choses qui sont plus solides. C'est les idées qui construisent un pays. Ce n'est pas les calculs politiciens qui construisent un pays.
Assala Tchoumoko, on va profiter de votre présence ici pour vous demander où est-ce qu'on en est avec votre proposition de loi visant à limiter l'âge des candidats à l'élection présidentielle.
Oui, la proposition de loi est toujours sur la table du bureau du Parlement. Moi, j'attends que la conférence des présidents décide de programmer cette discussion, ce débat, pour qu'on le fasse. Là, le programme qu'on nous a donné, qui finit jusqu'au 29 décembre, je n'ai pas vu trace de ces propositions de loi. Parce qu'il y a deux propositions de loi. Il y a une qui concerne la Constitution, notamment la question de l'âge pour la présidentielle, et il y a une qui concerne le code électoral, notamment la question de transhumance, des acteurs politiques qui sont, lui, indépendants, qui, le lendemain, deviennent dans des partis politiques. Tout ça, c'est des choses qu'on doit encadrer, parce que ce n'est pas des bons messages qu'on envoie aux Ivoiriens. Ça décrédibilise le jeu politique. Et donc, je veux encadrer tout ça par une loi. Les textes sont déposés sur le bureau du Parlement. Je constate que jusqu'à présent, c'est le silence radio. On ne m'a rien dit encore, on ne m'a rien notifié. Et donc, j'espère que ça sera programmé pour les mois qui viennent et qu'on fera le débat. Au moins qu'on fasse le débat. Après, le vote est politique. Voilà. Si les gens ne veulent pas de ce texte, ils peuvent voter contre. Mais au moins qu'on fasse le débat, que les uns et les autres donnent leur position. Et qu'à la limite, on demande aussi l'avis des Ivoiriens. Le jeu le plus important en démocratie, c'est de demander l'avis des populations. On fait un référendum, on dit aux Ivoiriens, voilà ce qu'on a vécu pendant 30 ans, nous voulons changer ça par de telles dispositions. Est-ce que vous êtes d'accord? On demande aux Ivoiriens, ils se prononcent, et puis on avance. Mais étouffer le débat politique, empêcher un député qui veut faire des réformes, de faire ses réformes, de discuter de ces réformes-là, je pense que c'est tout ça, c'est antidémocratique. Et avec votre radio, je voudrais le dénoncer fortement, parce qu'un texte est déposé, il faut qu'on le programme, qu'on en débatte, après ils peuvent rejeter ou pas. Mais on fait le débat, les Ivoiriens se prononcent, et puis on passe à autre chose.
Paul Arnaud Bowie, oui, rapidement sur cette proposition.
Bien sûr, j'étais déjà intervenu sur la question, parce que nous dénoncions même le fait qu'on a déposé, n'est-ce pas, cette proposition-là sur la table des députés, parce que nous estimions que l'intention était déjà même antidémocratique, et qu'il fallait laisser, n'est-ce pas, tout Ivoirien, quel que soit son âge, qui avait donc la volonté de candidater, de le faire librement. Et qu'il revenait aux Ivoiriens de départager donc, les différents candidats, qu'on ait 50 ans, 60 ans, 80 ans ou 100 ans ou même 25 ans, il appartenait donc aux Ivoiriens de le faire. Donc nous sommes déjà prononcés là-dessus et nous avons dit clairement que ce projet de loi-là, qui avait été déposé par le député Assalé, était antidémocratique, que... il fallait purement et simplement ne pas en discuter.
Voilà, c'est ça que je trouve extraordinaire chez les acteurs politiques ivoiriens. Cette capacité à oublier leurs propres actes. En 2000, on était dans ce pays quand il y a eu le débat sur la Constitution et qu'il y a eu cette question de limitation de l'âge présidentiel. On a encore les vidéos, on a encore les écrits. Le FPI, qui aujourd'hui se retrouve dans l'opposition, était le porte-voix de la limitation de l'âge présidentiel. Donc voilà où se trouve la vérité dans ce pays. C'est-à-dire que les décisions que nos acteurs politiques prennent n'ont aucune base de construction d'un État. C'est-à-dire qu'en 2000, ça arrangeait le FPI de limiter l'âge pour la présidentielle parce que ça ne les arrangeait pas, ça ne les touchait pas. Donc ils ont fait campagne pour qu'on vote pour le oui, pour qu'on limite l'âge. Maintenant que par des circonstances de calcul politicien, un autre acteur est venu modifier le même test dans le cadre d'une alliance avec le RADP, ça les arrange maintenant, ils sont contre et ils parlent même de processus antidémocratique. C'est-à-dire qu'un député qui dit pas la loi a le droit de faire des propositions de loi, il fait la procédure, il respecte la loi, on considère que sa démarche est antidémocratique, alors que c'est prévu par la Constitution. Pourquoi? Parce que ça touche leurs intérêts. Alors, c'est pas comme ça qu'on construit une nation.
Pas comme ça qu'on construit. L'intention est antidémocratique.
Laquelle intention? C'est quoi l'intention? Une proposition de loi est autorisée par la Constitution. Donc un député peut faire des propositions de loi sur n'importe quel texte dans le pays. En quoi c'est antidémocratique? C'est prévu par les textes de la Constitution. Et donc je considère que cette façon de raisonner n'est pas de nature à construire une opinion publique crédible. Parce que les intentions des uns des autres interviennent parce que leurs intérêts sont en jeu. Alors que ce qui est en jeu, c'est l'avenir du pays. Et donc je pense que le débat doit être fait. La démocratie, c'est le débat. Il n'y a aucun débat qui est antidémocratique. On pose un problème, vous n'êtes pas d'accord, vous dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Une partie est d'accord, elle dit pourquoi elle est d'accord. Après, on va au vote et le peuple tranche. C'est terminé. En quoi c'est antidémocratique? Je trouve que c'est pas comme ça qu'on va construire un pays démocratique.
Bien, vous suivez Regard croisé sur l'actualité, votre émission de rétrospective de l'actualité commentée cette semaine par Antoine Assalé-Timoko, journaliste et député maire de Tiassalé. Et en face de lui, Paul Arnaud Bowie, vice-président exécutif du PPACI, chargé de l'entrepreneuriat, du transport et du secteur privé. Alors, messieurs, je vous propose de nous intéresser à présent au troisième forum pour l'investissement en Afrique qui vient de se tenir à Abidjan. L'édition 2022 a accueilli plus de 1500 participants en présentiel et a présenté aux investisseurs les secteurs prioritaires constituant des opportunités en Afrique. Et plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à l'ouverture des travaux. Suivons ensemble le compte-rendu de Jean-Claude Mabéa.
Ce forum est une véritable opportunité de négociation et de transaction à saisir pour le développement économique du continent africain, a indiqué la ministre ivoirienne du plan et du développement, Kaba Niali.
L'Africa Investment Forum apparaît comme une excellente opportunité de dialogue continu entre les gouvernements, les investisseurs et les porteurs de projets pour faciliter la maturation des projets structurants et accélérer le bouclage financier des transactions pour leur financement.
Après avoir salué la tenue de ce forum à Abidjan, le président du groupe de la Banque africaine de développement a mis en lumière les acquis du continent en dépit des crises mondiales. Docteur Akinwumi Adesina, dans des propos traduits de l'anglais au français.
Welcome to you, your excellence. D'ici 2050, l'Afrique représentera un quart de la population du monde. L'Afrique dispose des sources d'énergie renouvelable les plus importantes au monde. La zone continentale de libre-échange africaine est la plus grande zone de libre-échange au monde qui connecte des économies à hauteur de 3,3 trillions de dollars. L'Afrique ne peut donc pas être ignorée.
Pour le vice-président ivoirien, l'implication du secteur privé dans l'investissement pourrait accélérer la transformation économique du continent africain. Timoko Meilié-Koné.
Je voudrais inviter les opérateurs privés à saisir les opportunités d'investissement qu'offrent les pays d'Afrique.
Le panel présidentiel co-animé par les chefs d'État du Ghana, de l'Éthiopie, du Zimbabwe et le vice-président ivoirien a mis un terme à cette cérémonie d'ouverture de ce forum.
Alors, tout le monde est unanime, à l'instar du président de la BAD, la Banque africaine de développement qu'on vient d'entendre, Akinwumi Adesina, que l'Afrique a un potentiel énorme pour son développement. Mais alors, qu'est-ce qui coince? Pourquoi est-ce que l'Afrique a du mal à se financer et notamment à financer son développement?
Je pense qu'il est clair, et chacun est d'accord là-dessus, que l'Afrique a un immense potentiel et que l'avenir, en quelque sorte, se trouve en Afrique. La question de fond qu'on se pose, c'est est-ce que l'Afrique a les outils démocratiques qui lui permettent de façon durable de construire son développement? Voilà la question de fond. Quand des opérateurs économiques n'ont pas une visibilité sur au moins 30 ans, ils n'investissent pas dans une zone. Alors qu'ici, on est convaincu que chaque élection est un enjeu de guerre. Et donc, dans un tel contexte, le continent ne peut pas être stabilisé pour qu'il attire les investisseurs qui investissent dans les secteurs qui sont stratégiques. Parce qu'il y a l'instabilité, parce qu'il y a l'absence de démocratie, parce qu'il y a l'absence d'éducation. Beaucoup de pays d'Afrique noire francophone ont des populations qui sont à 60% analphabètes. Dans un tel système, l'investissement qu'on fait n'est pas très sécurisé. Il y a des systèmes judiciaires qui sont pratiquement l'émanation de la volonté des acteurs politiques au pouvoir. Et donc, dans un tel contexte, dans une telle insécurité juridique, les gens ne peuvent pas investir massivement. Donc, tout ça fait que les acteurs qui ont les moyens, qui ont les capitaux, qui doivent investir, préfèrent se tenir dans des pays où il y a des états de droit. Parce que dans les états de droit, tous les acteurs sont évalués sur le même niveau. Mais dans des états comme le nôtre, là, où la justice dysfonctionne, où la justice, parfois, n'agit que sur des coups de fil, il ne peut pas crédibiliser l'investissement. Et donc, je pense que c'est tout ça qui fait que, malgré le potentiel, on est encore à tirer le diable par la queue, parce que, finalement, les acteurs préfèrent se tenir dans des pays où, au moins, ils ont des protections juridiques.
La question est purement scientifique, donc la réponse ne peut être que scientifique. Je ne dirais pas le contraire de ce que vient de dire le député Assalé. Bien entendu, il faut un cadre tout à fait sécurisé. Bien entendu, il faut que des élections transparentes se fassent. Il faut qu'il y ait moins de bruit entre les acteurs politiques, entre les acteurs sociaux. Il faut une stabilité politique dans un pays pour attirer donc l'investissement. Il faut également un cadre juridique assez élaboré qui prenne en compte donc les intérêts des investisseurs. Il faut également une ressource humaine qualifiée, donc il faut former les gens, il faut éduquer donc nos populations. Il faut également qu'il y ait des infrastructures. Donc nos États doivent veiller à travailler à ce qu'il y ait des infrastructures dans tous les secteurs. Il faut en un mot que les conditions soient remplies, parce que dans tous les cas, l'investissement c'est une très bonne chose. Ça contribue donc à la richesse pour un pays et à la redistribution, bien entendu, de cette richesse-là à partir de l'emploi qu'on offre donc aux populations. Donc, moi, je salue, n'est-ce pas, l'avènement de ce forum que je souhaite d'ailleurs se répéter. Hein. Aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire, hier, c'était au Sénégal. Il faut que ça se fasse davantage. Il faut impliquer vraiment les populations africaines, surtout les opérateurs économiques, ceux qui interviennent dans le monde, n'est-ce pas, de la création des richesses, à prendre à bras le corps ces opportunités-là pour que l'Afrique soit forte, pour que d'ici 50 ans, 100 ans tout au plus, l'Afrique puisse être considérée comme le nouvel Eldorado, qui puisse donc attirer aussi les populations d'ailleurs vers l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est un potentiel assez puissant au plan économique pour l'avenir de l'humanité.
Alors, concernant notre pays, la Côte d'Ivoire, où nos atouts majeurs, nos potentiels, permettez-moi l'expression, sont à forte teneur agricole, pourquoi ne pas axer nos priorités, nos investissements et même notre formation académique vers ce secteur?
Oui, vous voyez que à l'époque du président Faubourgny, beaucoup d'écoles de formation avaient été construites, par exemple les lycées professionnels. tu avais des thématiques très précises sur l'agriculture. Et tout ça, à cause des crises qu'on a connues, a été un peu abandonné. Aujourd'hui, je pense qu'on veut revenir un peu à ça. Alors, on ne peut pas être un pays premier producteur du cacao et ne pas être en mesure de transformer au moins 60% de sa production. J'ai vu que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont boycotté récemment le nuage sérieux parce que des acheteurs, j'allais dire les groupes industriels, refusent de payer aux producteurs une sorte de prime à la tonne. Et donc, on est toujours lié à la volonté de ceux qui achètent nos produits parce qu'on est toujours dans l'exploitation de produits bruts. Comment, après 60 ans d'indépendance, on n'est pas capable nous-mêmes de créer la valeur ajoutée à notre produit qu'on réalise ici et qu'on exporte encore des produits bruts? Et donc, c'est la fragilité de notre système économique qui fait que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est encore liée à des marchés internationaux et c'est eux qui décident tout pour nous. Et donc, il faut investir massivement dans la transformation de l'agriculture. Chaque fois, on en parle. Vous voyez qu'aujourd'hui, on continue d'importer à hauteur de 300 milliards de francs CFA annuels le riz qu'on consomme ici. Alors qu'on a tout à notre disposition.
On a les bas-fonds,
il faut investir dans l'agriculture, il faut moderniser, il faut... Tout ça, on n'est pas dans une volonté politique claire d'aller à cela.
Moi, je pose la question, pourquoi?
Non, le président Oufo-Boigny, nous étions jeunes à cette époque, mais le président Oufo-Boigny disait, je construis toutes ces grandes écoles d'ingénieurs, agronomes, etc., pour former nos jeunes. De sorte que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans tout au plus, la relève soit assurée en termes d'industrialisation de notre économie. Donc le président Oufo-Boigny a tracé les sillons, n'est-ce pas, pour que la jeune génération prenne la relève à la matière. Je pense que c'est une question de décision politique. Il y a lieu donc d'interpeller nos hommes politiques qui sont aujourd'hui aux affaires pour leur demander tout simplement d'investir massivement dans le secteur de la modernisation, la mécanisation et de l'industrialisation donc de nos produits. Et tout à l'heure, le maire parlait de l'importation du riz, mais il y a des bas-fonds qui existent et il faut les identifier, il faut qualifier nos jeunes pour s'intéresser à ce secteur. Il faut même valoriser le coût des ventes parce qu'il y a ça aussi pour amener les jeunes, n'est-ce pas, à s'intéresser à ce secteur. Mais il faut surtout mécaniser le secteur agricole pour une forte production. Et à la clé, il faut investir dans le secteur de l'industrialisation de nos matières premières pour que nous sortions d'une économie agricole qui finalement ne fait pas avancer le pays.
Évoquons, si vous le permettez maintenant, la prime présidentielle ou prime exceptionnelle de fin d'année baptisée prime ADO. Un projet de précompte de 3,33% sur ce bonus en faveur des syndicats provoque des grincements de dents chez certains fonctionnaires. Une décision prise lors d'une assemblée générale par les centrales effetières signataires de la trêve sociale, mais qui ne rencontre pas l'assentiment de certains des leurs, n'hésitant pas à la qualifier de mesure unilatérale. Sur la question, voici l'avis de Théodore Zadignagna. Il est le président de la centrale syndicale de la plateforme des organisations professionnelles des secteurs publics et privés de Côte d'Ivoire.
À l'issue des acquis importants que nous avons obtenus, les 8 organisations signataires de la trêve sociale ont organisé une assemblée générale le 8 octobre dernier, où il y avait un peu plus de 2000 délégués venus de l'ensemble du pays et des syndicats de base pour rendre compte à leurs militants. Au cours de cette assemblée, les délégués présents, satisfaits donc du compte rendu des organisations, ont recommandé que les 3% supplémentaires là soient octroyés aux syndicats pour leur permettre d'être autonomes, de fonctionner correctement et de continuer le combat pour l'amélioration des conditions sociale des fonctionnaires. Voilà la proposition qui a été adoptée par l'ensemble des délégués présents. Au sorti de cette assemblée générale, les organisations ont leur également demandé de rencontrer l'ensemble des syndicats qui n'étaient pas à cet âge pour leur partager cette idée et voir ensemble comment la mettre en œuvre. Ayant été moi-même membre de cette assemblée générale, j'ai pris acte de cette recommandation faite par les délégués présents. Ce n'est donc pas illicite, mais forcément c'est un débat ouvert. Certains fonctionnaires n'ont pas compris et pensent que cela n'aurait pas dû se faire. D'autres, à qui on a expliqué, ont compris. Et les démarches entre nous d'explication continuent jusqu'à ce qu'on fasse le point pour voir quelle est la tendance. Et alors, si les choses vont dans le sens du refus général, ce précompte ne se fera pas. Dans le cas contraire, ce précompte se fera. Donc, nous sommes dans un processus qui n'est qu'au début. Et donc, c'est un peu dans ce cadre-là que tout ce que vous voyez, n'est-ce pas, se fait. Et c'est tout à fait normal que ce débat se fasse.
Antoine Assalé-Timoko, quel est votre avis sur ce projet de précompte qui divise les fonctionnaires?
Ça me rappelle un peu ce que nous vivions à l'époque quand nous étions à l'université avec la FECI, ce protocole d'ici à le gouvernement. sur les questions des bourses des étudiants. Au moment où on paye ces bourses-là, la FECI met des policiers derrière les étudiants. Et chaque fois que vous percevez votre bourse, ils sont arrêtés là, vous devez leur donner 10 000 francs. Vous imaginez à combien de milliers d'étudiants sont boursiers, et si chacun doit donner 10 000 francs. On ne sait pas pourquoi ils font ces précomptes-là. Alors, c'est un peu la même chose que les fonctionnaires doivent vivre, là. Ils ont fait des démarches pour que le gouvernement accède à un certain nombre de revendications. Et donc, il y a eu cette prime-là qui représente quoi, le tiers du salaire à la fin de l'année. Et ils font une AG où ils décident que sur cette prime-là, ils vont faire des précomptes de 3,33% sur chaque fonctionnaire.
C'est-à-dire 10% de la prime.
Voilà, pratiquement 10% de la prime, sous prétexte que c'est pour rendre plus autonomes les centrales pour pouvoir mener d'autres combats. L'objectif est peut-être viable, mais la démarche me semble inélégante. Parce que les syndiqués cotisent pour ces syndicats-là pour les aider à mener d'autres combats. Alors, s'ils doivent prélever 3% sur chaque prime qui est versée, ça représente combien? Quelle est la matrice qui va être financée par ce précompte? Parce qu'ils disent que ça ne peut pas rendre autonome. Ça ne veut rien dire rendre autonome les structures. Aujourd'hui, on a atteint un niveau d'éducation qui est tel que les gens sont méfiants sur des choses qui sont floues. Il faut qu'ils expliquent clairement quelles sont les missions qu'ils veulent accomplir avec cet argent. Qui va en être le gestionnaire? Parce que c'est un ensemble de syndicats qui sont dans ce truc. Est-ce qu'ils vont répartir, après qu'ils aient précompté, un montant à chaque structure pour qu'elle gère, ou bien c'est une entité unique qui va gérer? Tout ça, il faut qu'ils expliquent. Et ils ne doivent pas se cacher derrière le prétexte que c'est les délégués au coup de nager qui ont décidé, alors que les fonctionnaires n'ont pas été associés à cette décision. Je pense que c'est la transparence qui peut créer la confiance. Il faut qu'ils expliquent clairement ce qu'ils veulent faire avec cet argent, et puis peut-être que les fonctionnaires vont y adhérer.
Mm-hmm. Quel est votre avis, M. Paul Anoboui?
Il faut certainement continuer les discussions, les négociations avec tous les acteurs pour que finalement on puisse trouver une solution à cette question qui me paraît quand même une question essentielle. Effectivement, un syndicat, il doit fonctionner de façon autonome, de sorte, n'est-ce pas, à ne pas tomber dans les travers. Vous voyez, Zadi Nyanya et ses camarades se sont battus pendant des années et ont fini par obtenir gain de cause. Certainement que dans la bataille qu'ils ont menée, il y a eu beaucoup de risques. Il y a eu des suspensions de salaire peut-être, il y a eu des incarcérations, je cite comme ça. Et ça nécessitait certainement des moyens pour venir en aide à ceux qui étaient incarcérés, pour venir en aide à ceux qui ont eu les salaires suspendus, etc. etc. Donc, solliciter finalement que les fonctionnaires contribuent, n'est-ce pas, au financement des différents syndicats n'est pas une mauvaise idée. Ça, je ne peux pas dire que je suis contre parce qu'on ne peut pas appartenir à une organisation.
Oui, mais tout le monde n'est pas syndiqué. Tous les fonctionnaires ne sont pas syndiqués.
Bien sûr.
Ça devrait être volontaire.
Bien sûr. Je veux dire que sur les 250 000 fonctionnaires, peut-être que nous avons, on va peut-être dire, seuls 10% sont syndiqués, d'accord? Donc c'est les 10% là qui ont mené le combat pour obtenir le résultat que nous savons. Et qui en est bénéficiaire aujourd'hui? C'est l'ensemble des fonctionnaires. Donc voyez-vous, des gens sont assis, croisés les bras dans leur salon. Il y a 10% qui se battent. Et puis, quand le gain arrive, ben, ils sont tous contents, n'est-ce pas, de profiter. Je dis que ça aussi, c'est de l'irresponsabilité. Je ne dis pas que cet argent doit être donné sans transparence, doit être donné sans avoir pris, n'est-ce pas, suffisamment de dispositions pour que ça puisse effectivement servir, n'est-ce pas, les intérêts des fonctionnaires quand le besoin va se poser. Vous comprenez? Donc, il faut réfléchir, il faut s'asseoir, il faut discuter davantage. La négociation, rien que la négociation. Moi, j'ai été directeur des ressources humaines. J'ai eu régulièrement à conduire des négociations autour des questions donc, de revendication. Et je pense que la seule issue ici, c'est qu'on s'assied autour d'une table et qu'on discute et qu'on discute. Et puis, au sorti de là, toutes les parties en présence auront gain de cause.
Bien, nous allons allègrement vers la fin de cette émission, mais je voudrais que vous commentiez brièvement ces deux actualités, mais cette fois sans illustration sonore. Il y a tout d'abord cette affaire de présumé faux général, un certain Mathias Le Bailly, qui a été arrêté et déféré à la MACA. L'enquête suit son cours et touche certaines personnalités publiques. Que savez-vous de cette affaire qui fait le buzz en ce moment?
Ben, on ne sait pas grand-chose de cette affaire. Tout le monde dans la supputation. On sait qu'un homme a été arrêté. On le soupçonne d'avoir usurpé une qualité, d'avoir organisé une vaste opération d'escroquerie à une très haute échelle. Et donc, ce sont des présomptions de fait qui lui sont reprochées. Maintenant, l'affaire étant judiciaire, moi, ce que je déplore, c'est que tout le monde en parle, comme si chacun connaissait le dossier, et en piétinant au passage la présomption d'innocence. Je pense que la justice a ouvert une enquête. Il faut attendre que l'enquête nous dise clairement de quoi il retourne. Sinon, pour le moment, personne ne sait réellement ce qui est clairement reproché à cet homme. Quels sont les faisceaux d'indices qui ont permis qu'on le place sous mandat de dépôt? Mais je suppose que si le procureur est allé jusqu'à ce niveau, c'est qu'il dispose d'éléments qui permettent d'agir ainsi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une constitution qui dit en son article 7 que quand quelqu'un est accusé, il bénéficie de la présomption d'innocence. Et donc, il faut respecter cela et attendre que la justice nous donne des éléments qui permettent de dire qu'il a fait ceci ou cela. Au-delà de ça, on ne peut que commenter, mais en étant extrêmement prudent sur ces questions-là.
Mais le silence de la justice et du parquet ouvre un peu la voie à tous ces commentaires.
Oui, mais la justice, dans les faits, la justice n'a pas à faire du bruit sur un dossier qu'elle a en main. Une procédure d'investigation est couverte par le secret. Et donc, tant qu'on n'a pas des éléments factuels qui permettent de dire telle chose, ils ne vont pas se lancer dans des déclarations qui pourraient les rattraper après. Donc, je pense que leur prudence est compréhensible et chacun devrait pouvoir s'en tenir à ça.
Oui, le fait de voir ce présumé faux général dans des photos, dans des vidéos avec certaines personnalités, est-ce que tout ça, ça vous a interrogé sur son arrestation?
Écoutez, la présomption d'innocence ici, pour moi, a toute son importance. Un citoyen est accusé d'usurper un titre, il est donc interpellé, il est conduit devant le procureur, mais l'enquête suit son cours. Et je crois que la justice fait bien de garder véritablement un silence jusqu'à ce qu'il ait fini donc d'étudier les éléments qui sont à sa disposition avant donc d'éclairer l'opinion nationale ou internationale. Je crois savoir que les avocats donc de ce monsieur sont déjà intervenus pour dire qu'ils disposaient donc d'éléments qui disculpaient donc leurs clients de toute accusation. Bon, je crois qu'ils vont certainement verser ça au dossier et puis comme c'est le procureur qui accuse, il va également faire ses enquêtes et au terme de tout cela, les Ivoiriens sauront donc la vérité et la justice fera son travail.
Alors, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de lancer une vaste opération de recrutement. On parle de 50 000 volontaires pour faire face à l'insécurité due au terrorisme. Est-ce qu'il ne prend pas un gros risque?
Je pense qu'il prend un gros risque en fait. Parce que les questions du terrorisme aujourd'hui, ça ne relève pas seulement du simple combat. Même au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la technologie, au niveau de la télécommunication, au niveau du trafic de drogue, au niveau du trafic de ressources, les terroristes sont à tous les niveaux. Et donc, quand on fait un coup d'État, sous prétexte que celui qui est là n'avait pas mis les moyens à disposition de l'armée pour faire la guerre, il faut venir assumer ce qu'on veut faire. C'est pas en appelant 50 000 volontaires à aller au front qu'on va lutter contre des gens qui sont sur le terrain depuis des années et qui mettent tout le territoire. Je pense que c'est pas une bonne mesure. Il a dit que l'armée n'avait pas les moyens d'aller combattre. Il a pris le pouvoir qui donne les moyens à son armée pour aller combattre. C'est pas des civils qu'on va recruter. On a vu ce qui s'est passé au Mali quand les civils ont été associés à la lutte contre le terrorisme. Des villages entiers ont été rasés par des terroristes. Donc, pas exposer un peuple à ce niveau. D'ailleurs, il voit que le peuple burkinabé, dont une partie réclame que le président de la transition appelle Wagner, la milice russe, à venir combattre, est sous la pression de ce peuple-là qui veut forcément que les Russes arrivent et ils refusent d'accéder à cette revendication. Maintenant, ils prennent des civils pour aller combattre. Je suis pas sûr que ce soit la solution. Et d'ailleurs, ça ne sera pas la solution parce qu'il va envoyer les gens à l'abattoir. Ils n'auront jamais les moyens de former correctement les gens et de les envoyer au front pour faire la guerre. Ce n'est pas possible.
Paul Arnaud Bowie.
Ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui doivent défendre leur pays. Je suis d'accord d'avis avec le capitaine de faire appel donc aux populations burkinabées. Mais là encore, c'est en ce moment que je rejoins le frère. Il ne faut pas amener les gens à l'abattoir sans, n'est-ce pas, leur avoir donné les moyens pour combattre. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, c'est la technologie, hein, de toutes les façons. On n'a plus besoin d'aller véritablement au corps à corps.
Est-ce que c'est le tout militaire qui permet de vaincre?
Il faut avoir véritablement les moyens technologiques, les moyens militaires pour aller combattre. Donc, s'il peut garantir une formation et les moyens qu'il faut à ces jeunes-là, ben, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire, mais il y a un risque qu'on amène, n'est-ce pas, des jeunes qui n'ont ni formation, ni moyens à aller combattre des gens qui sont aguerris et qui maîtrisent pratiquement tous les rouages de la guerre.
Bien, c'est la fin de ce numéro de Regard croisé sur l'actualité qui recevait Paul Arnaud Bowie, vice-président exécutif du PPACI, chargé de l'entrepreneuriat, du transport et du secteur privé, et Antoine Assalé Tiemoko, journaliste et député maire de Tiassalé. J'ai bénéficié de la réalisation technique d'Antoine Kouassi. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine.
C'était Regard croisé sur l'actualité. Ousmane Kanté.